quand on se referme, c'est jamais vis-à-vis d'une personne. Il n'y a pas de culte de la personnalité dans le bouddhisme. Alors c'est vrai qu'on se prosterne, certains pratiquants se prosternent pas devant l'autel, parfois ils se prosternent devant l'enseignant. Mais c'est pas tant devant l'enseignant qu'ils se prosternent, c'est devant l'enseignement qui va être donné. On considère que l'enseignant, comme un perroquet, et bah, il répète ce qu'il a entendu. On estime qu'il est habilité, qu'il a suffisamment étudié, suffisamment pratiqué pour répéter sans faire trop d'erreurs. ce qu'il a entendu, et c'est son job. Et donc, quand vous voyez des gens se prosterner devant l'enseignement bouddhiste, c'est pas vis-à-vis de la personne, c'est pas devant l'enseignant qu'on se prosterne, c'est devant l'enseignement qui va être donné. Voilà, il y a un héritage spirituel, et puis on se prosterne devant l'enseignement. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, on va commencer par réciter le refuge, et puis ceux qui connaissent la prière de refuge, vous pouvez m'accompagner. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puisse-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puisse-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puisse-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Et puis on va commencer par un petit temps de méditation. Donc on va prendre 2-3 minutes d'abord pour se détendre, tout simplement, se relaxer. Simplement, sans rentrer dans les détails, on garde la colonne vertébrale bien droite. Ça c'est important. Et une fois qu'on trouve le point d'équilibre dans lequel on sent que la colonne vertébrale tient toute seule, sans qu'il y ait besoin de faire d'efforts particuliers, on détend tout le corps autour. On laisse les muscles se relâcher, tranquillement. Les muscles des bras, des doigts, des épaules. Du visage, de la nuque. Et puis progressivement, on s'installe dans le moment présent. On prend conscience de notre environnement, l'atmosphère de la pièce, la température, les sons, l'éclairage. En méditation, on ne cherche pas à faire quelque chose, à réussir quelque chose, à obtenir quelque chose. Il s'agit simplement d'être conscient. Et de se détendre. Si le corps est détendu, on est conscient que le corps est détendu. On sait que le corps est détendu. Si le corps est tendu, si on sent des tensions, on en est conscient. On est conscient qu'il y a des tensions dans le corps. On sait qu'il y a des tensions dans le corps. Et c'est OK. Parfois, il y a des muscles qui mettent du temps à se détendre. On reste OK avec ça. On est simplement conscient. Conscient que le corps est détendu, conscient que le corps n'est pas détendu. Et dans les deux cas, c'est OK. S'il y a des sons, on est conscient qu'il y a des sons. On sait qu'il y a des sons. S'il n'y a pas de son, on est conscient qu'il n'y a pas de son. On le sait. S'il y a des pensées, on est conscient qu'il y a des pensées. On sait qu'il y a des pensées, on sait à quoi on est en train de penser. Et c'est OK. S'il n'y a pas de pensée, on sait qu'il n'y a pas de pensée et c'est OK. On prend l'esprit tel qu'il est, on n'essaye pas d'intervenir. Sur les choses, sur les phénomènes. On n'essaye pas de corriger quelque chose. On se contente simplement d'être conscient. Si on se sent plutôt calme, c'est OK. On sait qu'on se sent plutôt calme. Si on se sent plutôt agité, c'est OK. On sait, on est conscient, on est agité. Pas de problème. Si on se sent bien, on le sait. Si on se sent pas à l'aise, c'est ok aussi, on le sait. Si l'esprit est clair, c'est ok. Si l'esprit est confus ou endormi, c'est ok, on le sait. Je vous ai ramené des photocopies sur le sentier de Samatha. C'est une peinture traditionnelle qui illustre l'enseignement qu'on va voir jusqu'à décembre, qui s'appelle les 9 étapes de Shiné. Alors là, la méditation qu'on vient de voir, c'est une méditation, c'est la méditation. D'ailleurs, c'est très simple, et à la fois, c'est très simple à comprendre comme instruction, mais ça ne veut pas dire que c'est facile à appliquer. Si on pouvait méditer comme ça tout le temps, ce serait le top du top. C'est-à-dire, dans cette méditation, il n'est pas question d'avoir un esprit plutôt calme, ou de se concentrer sur quelque chose, ou de ne plus avoir de pensée, ou de travailler sur les facteurs qui s'élèvent dans l'esprit. En fait, on laisse l'esprit exactement tel qu'il est. L'idée, ce qu'on s'efforce de faire, c'est d'être conscient. Je dis faire, mais non, être conscient, ça n'implique justement rien. C'est justement trouver ce placement d'esprit, cette espèce d'arrière-plan, on pourrait dire, où on est conscient de ce qui se passe. Si je dis comment était votre méditation et que vous me répondez, eh ben j'étais plutôt calme, comment vous le savez? Grâce à cette conscience. Si je dis comment était votre esprit, ah, il était plutôt agité, comment vous le savez? Cette conscience. Si je dis que, si vous me dites il était plutôt endormi, comment vous le savez? Toujours cette conscience. Cette conscience dont on parle est toujours là. On peut même pas s'empêcher d'être conscient. C'est la nature de notre esprit. Il ne s'agit pas d'une expérience, il s'agit de la nature de notre esprit. C'est un arrière-plan qui est connaissant. Et si on comprend ces instructions et qu'on sait les mettre en pratique, on voit de quoi il s'agit, alors à ce moment-là, impeccable. Il n'y a pas besoin d'autres méthodes. C'est une méthode très directe, très très puissante. Parce qu'on n'a même plus à travailler sur l'esprit. On peut le laisser totalement sans entrave, totalement tel qu'il est. Par contre, maintenir cette reconnaissance à chaque instant. Quand on dit à la fois c'est très simple, à la fois ce genre d'instruction était traditionnellement donné après beaucoup de préliminaires. C'est-à-dire on faisait passer le disciple à travers beaucoup de préliminaires pour le préparer à ce genre d'instruction. Alors que nous, en fait, ce genre d'instruction est donné vraiment très facilement, partout. Ça pourrait même s'apparenter à la pleine conscience. En fait, en anglais, on traduit ce genre de conscience par « awareness », et en français, on la traduit par « pleine conscience » ou « pleine présence ». Mais en même temps, voilà, « awareness », ça traduit donc l'idée d'être conscient, mais plus précisément, être conscient d'être conscient. Alors c'est là que ça fait un peu beaucoup de conscient et que c'est pas facile à choper. Moi, quand on me disait ça, être conscient, conscient, je veux dire, ça me... Et être conscient, mais ça veut rien dire. Conscient d'être conscient, et donc je me suis beaucoup arraché les cheveux avec cette méthode. Parce qu'en plus, on me dit... ouais, et donc vous voyez où j'en suis, quoi. Et puis, en plus, on nous vend ça comme étant, ça, c'est le top. Ça, tu sais méditer comme ça, c'est le top. Puis en plus, c'est simple. Comment ça, c'est simple? Moi, je comprends rien. Je comprends rien. Ça fait 10 ans qu'on me répète ça. Parfois, ça fait tilt. Et effectivement, pour celui qui fait l'expérience de ça, qui arrive à mettre une expérience sur ces mots-là, ah bah oui, évidemment. Ah bah, bien sûr. Mais tant qu'on n'a pas goûté ça, quand on nous dit conscient d'être conscient, donc si ça fait tilt, tant mieux. Si ça fait pas tilt, pas de problème. Il y a plein de méthodes dans le bouddhisme qui sont tout aussi efficaces. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on nous dit, voilà, quand vous savez méditer comme ça, c'est le top du top, c'est très puissant, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure méthode. La meilleure méthode, c'est celle qui nous convient, c'est celle qu'on comprend. Si on ne comprend pas ça, aucun problème. Parce que on joue avec des mots, on met des mots sur l'expérience. Et donc, conscient d'être conscient. Moi, j'aime bien cette image-là. En fait, c'est un peu si, je vous disais, vous regardez un film. Hein, vous regardez un film. Et pendant que vous regardez un film, vous vous regardez en train de regarder le film. Peut-être ça peut vous parler. Vous lisez un livre. D'être dans le livre, être conscient, c'est vous vous regardez en train de lire le livre. Conscient que je suis. D'ailleurs, on ne regarde, on n'est plus le personnage qui lit le livre, on regarde ce personnage-là qui s'appelle Organ, qui lit un livre. Et donc, du coup, on n'est plus le personnage. On est plus vaste. Il y a le personnage qui lit le livre. On est tout à fait conscient de ce qui se passe, de ce qu'on lit. Et en même temps, la conscience, ce n'est plus identifié à ça. Elle devient plus vaste, parce qu'elle prend conscience du personnage qui lui livre, mais en même temps, avec ça, elle prend conscience de beaucoup de choses aussi. C'est une histoire de placement. Donc voilà, c'est ça ce qu'on appelle, ce qu'on traduit par être conscient d'être conscient. J'ai des pensées, je sais que j'ai des pensées. J'ai pas de pensée, je sais que j'ai pas de pensée. J'ai l'esprit clair, je le sais. J'ai l'esprit confus, je sais que j'ai l'esprit confus. C'est-à-dire, même quand on a l'esprit confus, bah, comment on le sait? Bah, parce qu'il y a justement cette awareness. Voilà. C'est très simple, et à la fois, on n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça. C'est pas du tout habituel, et donc du coup, c'est pas évident de faire ça, surtout que l'idée, c'est de le faire à chaque instant. C'est-à-dire, si je dis, dans cette méthode-là, qu'on soit l'esprit clair ou l'esprit sous l'emprise de la torpeur, à la limite, c'est pas un problème, si on est conscient de la torpeur. Mais quand on dit ça, ça veut dire être conscient à chaque fraction de seconde. Parce que si à un moment donné, je suis dans la torpeur et que je le sais pas, bah, qu'est-ce qui se passe? Je pique du nez. Je dors et je le sais pas. Donc du coup, on n'est plus dans la pleine conscience. Donc il faut vraiment que ce soit à chaque instant. Sinon, bah, on dort. Parce qu'on ne sait pas qu'on est en train de dormir. Et d'où, en fait, l'enseignement sur les étapes de Chiné. Cet enseignement va nous permettre de développer une stabilité, de développer une compétence qui est de dompter notre esprit. Alors, je vous en avais peut-être un peu déjà parlé. Pourquoi j'ai parlé de la pleine conscience avant, de cette awareness? C'est pour qu'on comprenne bien pourquoi, à un moment donné, on va nous donner une méthode, on va parler de dompter l'esprit. C'est très fort. C'est dompter, ça parle de dompter, contrôle. Ça veut dire, si quand on parle de dompter un animal, par exemple, un chien, si je lui dis debout, se met debout, si je lui dis assis, assis, va chercher la balle, reviens. Voilà, bah, l'idée, c'est de pouvoir faire pareil avec l'esprit. Je veux que l'esprit se concentre là-dessus, il se concentre là-dessus. Je veux que l'esprit arrête de focaliser là-dessus, il arrête. Je veux qu'il se repose, il se repose. Je veux qu'il réfléchisse à ce projet, il réfléchit à ce projet. Je veux qu'il se relaxe, il se relaxe. Voilà, les étapes de Chiné, c'est pour nous apprendre à avoir un contrôle sur notre esprit. Pouvoir lui faire faire ce qu'on veut. Et si on veut pas lui faire, qu'il ne fasse pas quelque chose, bah, l'empêcher de faire ce qu'on ne souhaite pas. Alors ça paraît vachement paradoxal par rapport à ce qu'on dit de l'awareness, c'est-à-dire laisser l'esprit tel qu'il est, sans entrave, être conscient. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir faire ça, eh ben parfois on va avoir besoin d'une méthode graduelle. Apprendre à stabiliser l'esprit, à le rendre très calme, très stable, et pouvoir le diriger où on veut. Cette compétence, en fait, on ne la présente pas comme une finalité, comme étant le but à atteindre, on la présente comme un outil qui va nous permettre de voir la sagesse, de actualiser la sagesse, la lucidité. C'est là que doit nous emmener l'outil. Sous-entendu, une fois qu'on est arrivé à cette finalité-là, l'outil, on le laisse tomber. On nous dit d'emblée, ce véhicule, ce radeau qui va nous aider à traverser l'autre rive, à un moment donné, une fois qu'on aura atteint l'autre rive, il va falloir le laisser tomber. Le calme de l'esprit, la stabilité, la clarté, n'est pas vu là comme la finalité, mais juste comme un outil pour découvrir la sagesse, la compréhension des phénomènes. Parce que c'est la sagesse qui va permettre la libération. La stabilité ne peut pas nous permettre une libération totale. Elle peut permettre beaucoup d'améliorer beaucoup de choses, mais elle ne peut pas nous emmener vers la libération, vers l'éveil. Et là, dans le dessin que vous voyez, la sagesse, elle est symbolisée par le petit personnage tout en haut du chemin, qui fait demi-tour, assis sur un éléphant, et qui tient une épée qui flamboie. Cette épée qui flamboie, c'est la sagesse. Donc on va revenir là-dessus, mais avant, voilà, je reviens un petit peu sur ce qu'on avait dit la dernière fois. Donc, vous savez, hein, dans les enseignements bouddhistes, moi j'en écoute plein. J'en écoute parce que bah, de par mon mode de vie, j'écoute beaucoup d'enseignements, je vais voir des maîtres, je vis dans un centre bouddhiste. Et donc, j'en écoute beaucoup, mais finalement, je retire pas grand-chose. Même après une semaine de séminaire au Portugal, voilà, c'est dense. À chaque fois que je repars, j'ai retenu deux phrases. Mais finalement, j'ai vu que pour beaucoup, c'était comme ça aussi. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des têtes qui arrivent à tout absorber. Moi, c'est pas mon cas. J'y vais parce que ces deux phrases, bah, finalement, c'est ça. Ça va peut-être me porter pendant deux semaines, un mois, deux mois. Et c'est ça qui est important, c'est que ce truc-là, bah, je le garde et puis je le mâche, je le digère. Et je vois les enseignements beaucoup comme ça. Et donc, j'invite les personnes aussi à pas se complexer par rapport à ça, parce que voilà, il y a beaucoup de choses, c'est très vaste, l'enseignement. Puis il y a des choses qu'on comprend pas, il y a des choses qui nous parlent pas aussi. Mais voilà, on y va, parce que peut-être, à la sortie de... on va retenir peut-être un mot qui va résonner et qu'on comprend bien, qu'on s'approprie. Et donc, la dernière fois, ben voilà, est-ce que la dernière fois, il y a un truc qui a résonné pour quelqu'un qui était là? Est-ce qu'il y a une phrase. C'est pas grave. Vous savez, je vais pas le prendre personnellement. Je vais me dire que vous n'étiez pas réceptif. Voilà.
On a parlé.
Il y a une dame qui m'a dit dans un groupe. C'est pas vraiment ce que j'avais dit de l'enseignement, mais en tout cas, elle, c'est ce qui, elle a écouté ça et puis ça lui fait rebondir sur ses propres réflexions. Et elle m'a dit, bah, il y a une phrase maintenant que je me répète. Quand je traverse une contrariété, c'est pas si grave. Elle traverse un truc et puis ça va pas comme elle voudrait, mais elle se récite ça un peu comme un mantra. C'est pas si grave. Et ça lui permet de relativiser. Et puis elle m'a dit que voilà, depuis un mois, c'était un truc qui la nourrissait. C'est intéressant comment chacun s'approprie le truc. Hein, j'entends ça, puis hop, c'est pas si grave. Je crois qu'elle rebondissait sur le fait que on avait vu la dernière fois apprendre à être OK. Si ça va, c'est OK. Si ça va pas, c'est OK. Enfin, on apprend à s'accommoder des circonstances. Et puis, c'est pas grave, je vais reprendre depuis le début. Non, je plaisante. On avait vu que finalement l'éveil, c'était pas la fin des problèmes, au sens où on l'entend. C'est-à-dire, on peut pas demander à l'éveil de nous immuniser contre le fait que les avions que je rate mon avion, ou que le train a du retard, ou que je tombe malade, ou que j'ai des factures à payer, des problèmes à gérer, perdre des proches, pas obtenir ce que je veux, obtenir ce que je veux pas, voilà, en tout cas. L'éveil n'immunise pas contre ça. La vie reste ce qu'elle est, c'est-à-dire instable, tout change. Tout change tout le temps. L'impermanence, c'est une expérience. Donc c'est quelque chose qu'on enseigne beaucoup dans le bouddhisme, le fait que tout change tout le temps, rien n'est stable. Et on nous demande non seulement de le comprendre intellectuellement, facile, mais d'en faire l'expérience. Et c'est une expérience que, qu'on soit débutant, ou même qu'on soit un enfant, on peut en faire l'expérience. Tout change tout le temps, et donc du coup, si tout change tout le temps, je ne sais pas ce qui va se passer dans une heure. Ça, c'est quelque chose de très concret. On est là, on prend conscience de cet instant, et nous tous, on n'est pas capable de savoir ce qui va se passer dans une heure. Pourtant, on en a peut-être une idée. On s'imagine que après le chilling, on va reprendre notre véhicule, on va rentrer chez nous, etc. Mais ça reste juste une supposition. Si on regarde, si on essaie de projeter dans l'avenir, il y a quand même un gros point d'interrogation. On ne sait pas. Du point de vue bouddhiste, on pourrait penser d'ordinaire que c'est un problème de ne pas savoir. C'est une sorte d'handicap de ne pas savoir. Peut-être qu'on envisage que l'éveil, c'est de fait, peut-être de pouvoir savoir, mais non. Dans le bouddhisme, le fait qu'on ne sache pas, c'est le début de la sagesse. On sait qu'on ne sait pas. Cette incertitude, c'est une certitude. Et c'est même là-dessus qu'on va se baser. C'est une vraie, il s'agit d'une vraie compréhension à ce moment-là. Quelque chose sur lequel on peut se fier. On ne voit pas du tout comme quelque chose à corriger ou quelque chose qui est censé nous angoisser. Non, c'est un fait. Non seulement je ne sais pas, mais personne ne sait. C'est point d'interrogation. Et ça, c'est vrai. C'est une sorte de vérité. Une vérité, on va parler de vérité relative, parce que ça reste quand même une conception relative, mais n'empêche que on peut se baser là-dessus. Il y a quelque chose que je sais, c'est que je ne sais pas. Je sais l'incertitude. Et je sais que c'est valable pour tout le monde. On ne sait pas de quoi va être fait le prochain moment. On ne sait pas s'il va être mieux. On ne sait pas s'il va être pire que maintenant. On aimerait bien qu'il soit mieux. On cherche tous. On espère tout ce qui serait, mais on empêche que on ne sait pas. Je ne sais pas. Et malgré tous les problèmes progrès technologiques de l'homme, l'homme n'est pas capable de savoir ça, ce qui va se passer dans une heure. Même si on a un grand pouvoir sur les choses, les gens les plus fortunés, les gens qui ont un grand pouvoir, les gens qui, ils peuvent magouiller. Mais n'empêche que ça reste un point d'interrogation. L'instant suivant. Et intellectuellement, on peut aussi on peut facilement le comprendre parce que on sait qu'il y a plein de choses qui sont en train de changer là, qui font qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans l'heure qui suit, dans la minute. Qui est en train de se dérouler là, il y a plein de choses qui se passent sur cette planète, il y a plein d'événements qui sont en train de se produire. Il y a des gens qui vivent, on pourrait même dire qu'il y a là en ce moment même, il y a des gens qui vivent des bouleversements, peut-être des événements qui vont faire prendre à leur vie un virage à 180. Ça peut être des événements merveilleux, ça peut être des événements atroces, mais c'est en train de se dérouler là maintenant. Et il y a plein d'événements qui sont en train de se dérouler, je ne parle même pas dans l'univers, ne serait-ce que sur cette planète. Il y a plein de choses. Donc, plein de paramètres qui vont conditionner l'instant suivant. Et on ne le perçoit pas, nous, peut-être. Là, dans cet instant, on ne perçoit pas encore les changements que ça va provoquer. Peut-être dans une heure, peut-être dans deux heures, peut-être à plus grande échelle. Mais n'empêche qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Peut-être qu'ils sont en train d'annoncer à la radio un truc... vachement important, qui va avoir un impact sur notre vie. En bien, en mal, on ne sait pas. Mais voilà, c'est tout à fait possible. On sourit parce que On sait que c'est vrai. On se dit, ouais, c'est, on se visualise en train d'entrer, mais on empêche que, on sait que, bah ouais, il y a le point d'interrogation. Et c'est important, c'est une réflexion qui est importante parce que l'idée c'est que non seulement on le comprenne intellectuellement, mais qu'en plus on en fasse l'expérience. Que c'est pas un handicap de ne pas savoir ça. C'est pas nous qui allons de travers. C'est pas comme si voilà, on était moins malin que les autres, etc. C'est que c'est une réalité. Vraie réalité, tout est instable. Et si on l'intègre vraiment, cette réalité, ça va nous permettre de nous détendre. Alors qu'on pourrait penser, bah oui, justement, c'est instable, donc ça pourrait suggérer qu'on soit angoissé par rapport au moment suivant. Mais en fait, bien sûr, on ne sait pas de quoi il retourne, mais il s'agit de quelque chose qui est vrai, quelque chose sur lequel on peut se fier, pas quelque chose qui va de travers chez nous et qu'il faudrait corriger, où il s'agirait de faire en sorte que les bonnes choses arrivent et faire en sorte de mettre à l'abri des mauvaises choses. Si on comprend vraiment la stabilité, on comprend qu'on a un contrôle, mais de l'ordre presque du zéro par rapport aux événements qui se déroulent. Et ça, c'est important de le comprendre parce que ça va nous permettre de nous détendre par rapport au fait qu'il y a des choses bonnes qui arrivent et des choses mauvaises qui arrivent. Même si on fait tout pour que les choses se passent pour le mieux, eh bien, si on intègre bien cette loi de l'impermanence, on comprend qu'on ne peut pas échapper à la souffrance, on ne peut pas échapper aux problèmes. Et que s'en libérer, quand on parle de l'éveil, il ne s'agit pas de s'en débarrasser de la souffrance. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'apprendre à vivre avec. Il s'agit d'apprendre à vivre en harmonie, on pourrait dire, avec les problèmes. On va parler de développer une attitude qui permet d'envisager que quelle que soit l'issue, que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien, c'est ok. J'apprends à être ok. J'apprends à manager avec tout ça. Ok quand les choses vont bien, ok quand les choses vont de travers, ou pas comme je voudrais. C'est ça qu'il s'agit. L'éveil, c'est cette attitude-là, où on est stable, qu'il y ait problème, pas de problème. Qui est pensée, pas de pensée. Qui est émotion, pas d'émotion. Qui est et ça se travaille. Alors il y a des gens qui disent oui, mais alors à ce moment-là, on fait plus rien. Si on apprend à être ok, on fait plus rien. Si quelqu'un nous marche sur le pied, on réagit plus. Et non, c'est... Là, on comprend de travers ce dont il est question, parce que c'est comme si on disait le fait de s'angoisser, d'être inquiet, d'être anxieux par rapport au fait que les choses peuvent mal tourner, comme si c'était le seul moteur pour nous faire agir. Le fait d'envisager que ça peut bien se passer ou que ça peut mal se passer ne nous empêche pas de faire des choses. Au contraire, si on est prêt à admettre qu'il y a ces deux issues possibles, ça nous empêche pas de faire notre mieux pour que, par exemple, tel projet réussisse. Si voilà, on a deux options quand on se lance dans un projet, soit ça marche, soit ça marche pas. Et même parfois, je dirais être trop anxieux par rapport au fait qu'on veut que ça marche, ou on a peur que ça marche pas, ça n'apporte pas d'amélioration, enfin ça ne, comment dire, ça n'empêche pas
les choses d'arriver.
Les choses d'arriver, Si le projet ne peut pas marcher, bah, le fait de s'angoisser par rapport à ça n'y changera rien. Personne ne peut dire que je me suis pour que ça marche, je me suis angoissé suffisamment fort, et donc c'est pour ça que ça a marché, ou c'est pour ça que ça marche pas comme ça. Même, je dirais, l'anxiété ou l'angoisse, c'est quelque chose qui pourrait nous paralyser. D'ailleurs, si on a trop peur que ça marche pas, bah, du coup, on fait plus rien. Ou alors, bah, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va pas plaire? Et donc, du coup, ça nous paralyse. Au contraire, si on a cette attitude qui envisage les deux options, l'idée, c'est pas d'être pessimiste. L'idée, c'est de comprendre que je fais de mon mieux, mais vu la loi d'instabilité, vu que j'ai pas tout le truc, ça peut ne pas marcher. Je me contente juste de faire au mieux, et les deux possibilités sont possibles, et donc du coup, bah, si ça marche, tant mieux, super. Si ça marche pas, on est prévenu. On s'y attendait, donc on n'est pas totalement déprimé, affligé, chaos. Et ça permet donc du coup de déployer, bah, de se relever. Ça laisse plein d'opportunités de faire d'autres projets, etc. Ce dont il est question, donc, en fait, c'est de se pencher sur l'esprit. Quand on parle d'éveil, on parle d'un travail sur l'esprit. Comment je vois les choses, comment j'expérimente les choses, comment je vis les choses, les bonnes choses, les mauvaises choses, les situations confortables, les situations pénibles. Comprendre que c'est que travailler sur les situations ne suffira pas. Si on veut être heureux, si on veut être libre, il faut travailler sur cet esprit. Parce que c'est cet esprit qui décrète je vais bien, je vais pas bien, ça c'est correct, ça c'est pas correct, ça c'est juste, ça c'est injuste. C'est l'esprit qui décide de se sentir blessé ou pas, au bout du compte. Il y a un maître qui disait, comment on se sent, ce qu'on ressent ne dépend pas de ce qui se passe. Comment on se sent, ça dépend de ce sur quoi on focus. C'est tout le propos de l'entraînement. C'est tout le propos de la méditation. Comprendre que comment on se sent ne dépend pas de ce qui est en train de se passer, ça dépend de ce sur quoi on focus. Et donc tout l'entraînement de l'esprit va être orienté vers justement développer cette faculté de souplesse. Ce sur quoi je choisis de me focus. Et c'est pour ça qu'on va parler de laisser, dans un premier temps, dans la méditation de Chinée, laisser couler, lâcher prise, on laisse circuler. Quand on dit, voilà, que se sentir blessé, finalement, ça dépend de nous, c'est que on va parler d'une habitude. L'esprit est pétri d'habitude. Et on peut, par habitude, par tendance, être très facilement blessé, se sentir très facilement blessé au moindre regard de travers. Ah, celle-là, il m'a regardé de travers, ou alors il m'a pas dit bonjour, etc. Et puis, si on est habitué à fonctionner comme ça, à focus sur les petits trucs qui nous contrarie, ça peut devenir extrêmement puissant. Et tout peut devenir prétexte à se créer des problèmes. L'idée, de, dans un premier temps, de laisser circuler, c'est de voir que, voilà, on arrive au boulot, cette personne, elle me regarde de travers, je suis contrarié, je commence à me faire mes scénarios, etc. De voir qu'il y a ça, mais il y a aussi l'option de, ok, je vais pas bloquer là-dessus, hein, parce que peut-être aussi on n'a pas les cartes en main, toutes les cartes en main, peut-être qu'il y a peut-être un malentendu, etc. Et puis il y a aussi d'autres choses, il n'y a pas que ça dans ma vie. Il y a aussi d'autres aspects positifs sur lesquels je peux porter mon attention. Pour porter mon attention sur autre chose, il faut que j'arrive à décrocher de ça. Donc laisser circuler. Parfois laisser circuler ne serait-ce qu'une minute. Je débloque, quoi. Au lieu de bloquer sur ce train, ça peut durer une heure, deux heures, ça peut nous prendre la matinée. Pour un petit truc comme ça, l'esprit qui est habitué à fonctionner comme ça, il peut rester bloqué une matinée entière sur un regard de travers. Et on peut se pourrir la vie. Et puis même en plus, parfois, il s'agit d'un malentendu, quoi. La personne n'était pas réveillée, et puis... Mais, dans un premier temps, s'autoriser à laisser tomber, c'est-à-dire changer de focus. Je laisse circuler. Et puis peut-être, si je pense à autre chose, ne serait-ce que une minute, ça suffira. Je serai déjà dans autre chose. On aura tourné la page et puis, ah oui, tiens, effectivement, je me suis peut-être un peu pris la tête pour rien. Du recul. Parce que c'est facile, en fait, de devenir... de se pourrir la vie. C'est extrêmement facile. C'est une tendance qui peut être très vite prise. Il suffit de se focaliser sur ce qui ne va pas. Et... Autant nous, on va s'entraîner, justement, à aussi se focaliser sur les choses qui positives, ou même pas positives, ne serait-ce que l'instant présent. Beaucoup de ça qu'il s'agit. C'est ce qui me contrarie, est-ce que ce qui me contrarie, ça a un rapport avec ce qui est en train de se passer, là, maintenant. Parce que très souvent, ce qui nous contrarie, c'est un rapport avec ce qui s'est passé, ou à ce qui va se passer. Il y a beaucoup de souffrances qui viennent de ça. Pas de ce qui est en train de se passer, mais ce qu'on a vécu. Peut-être ce que la personne nous a dit il y a une heure, ou il y a deux heures, ou il y a 10 ans. Ah, il y a 10 ans, elle m'a dit ça, elle m'a fait ça. Et on bloque là-dessus et du coup, on n'imagine pas qu'on peut être heureux tant que ce problème n'est pas résolu. Mais finalement, c'est pas, ça n'a pas de rapport avec ce qui est en train de se passer. On peut être très bien là, dans cette pièce où il y a le chauffage, on est relax, on a bien mangé. Enfin, je sais pas pour vous, moi j'ai bien mangé. J'étais chez Christelle. Merveilleux repas. Ou alors des pensées relatives au futur. On s'angoisse de ce qui va se passer. Ça nous empêche de profiter de ce qui va bien. Et le samsara, c'est beaucoup ça. Quand on parle du samsara, il ne s'agit pas d'un lieu, il s'agit d'un fonctionnement. Le samsara, c'est je ne pourrai pas être heureux tant que j'ai ce problème. Tant que j'ai ce problème, je ne peux pas être heureux. Et dans le fonctionnement du samsara, c'est on envisage qu'il faut régler les problèmes, et une fois qu'on aura réglé les problèmes, on pourra profiter de la vie. C'est un peu ça. Et puis peut-être on s'imagine qu'un jour on va se réveiller dans une piscine, voilà, avec des dauphins, des cocktails, et puis voilà, il y aura plus de, on aura couché le dernier problème, ça y est, c'est bon. Du haut de notre nuage là, ça va vous? Moi c'est bon, impeccable.
Et si on fonctionne comme ça, on va encore s'en créer des problèmes.
Si on fonctionne
comme ça. Si on fonctionne de cette façon, on va toujours s'en recréer tout le temps.
Oui, c'est sans fin.
C'est sans fin.
Le samsara, c'est sans fin. Et justement, pour renoncer à ce fonctionnement, parce que c'est un fonctionnement qui, en même temps, on l'aime bien, parce qu'il nous offre des répits. C'est-à-dire, parfois, en fait, on règle le problème. Un gros problème. Et puis en plus, dans l'esprit samsarique, c'est une fois que j'aurai réglé ce problème, ah, comment ça va être bon. Ah, comment je vais pouvoir être heureux. Ah, etc. Et il y a ce moment-là qui arrive, parfois, on règle le problème, et effectivement, c'est le pied. Mais très vite, bing, il y a un autre problème qui arrive. Ah, oh. Puis parfois, c'est pas seulement un problème, c'est deux puis trois qui arrivent en même temps. Le bouddhiste ou l'éveillé, c'est pareil. Qu'on soit pratiquant ou pas pratiquant, on règle les problèmes qui se présentent. L'idée, c'est pas d'arrêter de régler les problèmes. Par contre, ce qu'on arrête de croire, c'est qu'une fois ce problème terminé, réglé, ce sera terminé. C'est ça qu'il faut déformater. Cette idée que on sera heureux une fois que tous les problèmes seront cochés sur la checklist. Parce que ça, ça n'arrivera pas. Donc on résout les problèmes, mais parce que ça se présente et qu'il faut résoudre les problèmes, etc. Mais que on n'attend pas que tous les problèmes soient réglés pour être heureux. C'est vraiment, voilà, le mantra bouddhiste. On ne cherche pas le bonheur. On apprend à être heureux. Problème ou pas problème. On ne va pas attendre que les problèmes soient réglés pour être heureux. Il y a une histoire comme ça que j'aime bien. Que Rinpoche raconte souvent, c'est un enseignant avec son disciple. Et puis l'enseignant dit à son disciple, oui, tu vas finir ce travail et puis après on ira pique-niquer. Et donc, ouais, chouette. L'étudiant, il s'attelle à la tâche, etc. Et puis à chaque fois, l'enseignant rajoute une couche. Oui, mais on va encore finir ça et puis ensuite on ira pique-niquer. Puis les jours passent. Et puis il y a toujours cette promesse de pique-nique, mais qui vient jamais. Les mois passent. Puis au bout d'un moment, l'étudiant, il a compris, quoi. Pff, le pique-nique, niette. Et un jour, l'étudiant voit une procession. Au sommet d'une colline, une procession funéraire. Et l'enseignant, qui voit pas très bien, lui dit il se passe quoi là-bas? L'étudiant répond bah, je crois qu'il y en a un qui a fini son travail, et là ils vont pique-niquer. Voilà. L'idée, c'est que on va pas attendre que tous nos problèmes soient réglés pour aller pique-niquer. Et donc ça nécessite qu'on comprenne que dans une journée, ne serait-ce que dans une journée, il y a des choses chouettes qui arrivent, il y a aussi plein de trucs qu'on n'aime pas. Il y a plein de trucs qu'on n'aime pas. Il y a plein de trucs pénibles dans une journée. Et ça arrive comme ça. Et c'est intéressant, je trouve, plus on s'entraîne, plus on voit que ça arrive comme ça, et qu'on a zéro contrôle. Tout va bien, et puis il y a quelqu'un qui nous sort, une petite phrase assassine, ou un petit truc qui va de travers, ou tout va bien, mais si c'est pas la voiture, c'est pas, ça vient du couple, si c'est pas le couple, ça vient des enfants, si ça vient des enfants, ça vient de... Ça se niche partout. Il y a toujours des petits cailloux dans la chaussure. Et même parfois des gros cailloux. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir, quand on regarde profondément, de voir comment ça apparaît. C'est que c'est totalement imprévisible. Quel que soit le couloir sécurisé dans lequel on marche, on peut mettre des verrous partout, on peut mettre des stratégies partout, etc. Il y a toujours un truc dans le bouillon. C'est quoi l'expression? Un truc dans le potage?
Je sais plus. Une mouche dans le potage?
Ah quoi?
Une mouche, non?
Ouais, non, peut-être,
non,
ouais.
Non, on dit une couille dans le potage. Hein.
Ah quoi? Ouais, c'est ça.
Une couille? Ah, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que j'avais du mal à sortir. Je me suis dit, est-ce que ça va passer, ça? Non, ça doit pas être une couille dans le potage, ça me paraît... Bon, on va dire un caillou dans la chaussure. C'est plus... voilà. En plus, c'est enregistré. Faudra couper au montage, hein. C'est ça. Ouais, ça arrive vraiment, ça arrive. Et il y a tellement matière à se pourrir la journée si si on travaille pas sur l'esprit, c'est-à-dire si on décide de se bloquer là-dessus, mais c'est tout le temps en fait. On peut vraiment s'entraîner à se pourrir la journée très très facilement, être très malheureux toute la journée. Et donc l'idée de l'entraînement, ça va être de travailler là-dessus. Bien sûr, si on peut travailler sur la situation, on va le faire. Moi, je suis le premier. Hein. Je veux dire, j'aime pas souffrir. J'aime pas quand les trucs vont de travers. Je veux que les choses aillent bien. Et donc, du coup, si je peux améliorer les choses, je vais le faire. mais n'empêche que si on regarde profondément, on voit bien que si on travaille pas sur l'esprit, au bout du compte, on pourra pas vraiment être heureux. Travailler sur l'esprit, ça veut dire apprendre à ne pas se laisser blesser quand ça en vaut pas la peine. Voir qu'il y a cette option de, si ça en vaut pas la peine, laisser circuler, laisser passer les choses. C'est beaucoup d'énergie gagnée, beaucoup de temps gagné, plutôt que d'essayer de répondre à cette situation en disant, ouais, mais il devrait pas me parler comme ça, ou il devrait pas me dire ça, ou, et parfois ça en vaut vraiment pas la peine. C'est-à-dire, on monte des stratégies qui vont demander de l'énergie, pendant que on est là-dessus, ben, on n'est pas heureux, on passe pas à autre chose, on peut pas profiter parce qu'on est bloqué là-dedans. Et parfois, il suffit juste de, allez, je laisse tomber, je passe à autre chose. Et quand je dis c'est beaucoup de temps gagné, mais c'est beaucoup de temps à gagner, à être heureux. C'est-à-dire, si on laisse passer, bah, notre esprit, il peut vraiment être en paix. C'est derrière. Et peut-être il suffit, parfois c'est dans la minute, quand on est assez, quand l'esprit est devenu souple. Un truc qui peut-être il y a 10 ans, ça nous aurait vraiment pourri la journée, eh ben, en une minute, allez, c'est bon. Je passe à autre chose et puis ça va, quoi. En fait, on veut vraiment être heureux et on le fait sincèrement, et parfois dans notre démarche pour être heureux, ça part d'une bonne intention. On voudrait que les choses soient comme ça, que ça se passe comme ça, que les je suis correct, je voudrais que les gens soient corrects, je voudrais que les gens se comportent bien, parce que c'est bien. Bien sûr. Il y a une bonne intention derrière. Mais à force de mettre des lignes rouges comme ça, ben on se fait avoir par nos propres cadres. Et parfois, ça vient des, ça vient pas forcément des gens. Ça vient beaucoup de nos attentes. Il y a, par exemple, notre pire ennemi. Notre pire ennemi, on s'attend à ce qu'il nous pourrisse la vie. En tout cas, on s'attend à ce que ce soit son intention de nous mettre des bâtons dans la roue. C'est son job. Pire ennemi, ben voilà, on sait. Il veut nous pourrir la vie. Donc on est prévenu. Et à la limite, si on est prévenu, s'il essaye de nous blesser, bah précisément, on va pas se sentir blessé pour pas lui donner raison. Ne serait-ce que pour l'emmerder. Mais ça montre bien que ça dépend pas forcément de lui, même s'il a vraiment l'intention de venir. Si nous on décide, ah non, je vais pas te donner raison, il peut pas nous blesser. Et vous allez me dire, oui, mais il y a certaines situations où l'ennemi qu'on a en face de nous, c'est pas le collègue de boulot qui essaye de nous taquiner, ça peut être même. Mais l'esprit est très très puissant. Il y a Rinpoche qui nous racontait cet été que une femme tibétaine, voilà, il avait reçu le témoignage d'une femme tibétaine qui avait été mise dans des conditions extrêmement humiliantes. Par ses tortionnaires, enfin voilà, elle vivait au Tibet, sous le gouvernement chinois, et donc sous la domination chinoise. Et elle racontait qu'elle avait été mise dans une situation très. C'était pas de la torture, mais de la torture mentale, c'est-à-dire ses tortionnaires faisaient tout pour lui saper le moral, pour lui saper l'envie de vivre, donc des conditions très humiliantes, je pourrais pas vous raconter les détails. Mais en gros, un jour. Donc vraiment, où elle était au bout du rouleau, elle a entendu un des tortionnaires qui disait à l'autre « Ah, tu vois, celle-là, elle veut pas mourir. » Et du coup, elle s'est dit « Ah, ils veulent que je meure. Eh ben, je veux pas mourir. » C'est ça qui lui a permis de tenir bon, en fait. Elle s'est accrochée à ça parce qu'elle savait que c'est ça qu'il voulait. Et donc, du coup, aujourd'hui, elle témoigne, elle est sortie de cette situation, elle témoigne que c'est cette idée qui lui a permis de tenir le coup et s'accrocher à la vie, ne serait-ce que pour les emmerder. Comme quoi, hein, l'esprit est très puissant. Et que ça ne dépend pas seulement des circonstances. Ça dépend beaucoup de ce qu'on décide. Si on décide de se sentir blessé ou pas. Et c'est un travail, c'est un entraînement, c'est une habitude. Et même avec l'entraînement, on n'aime pas souffrir. Je pense que, au bout du compte, quand il y a vraiment quand il y a une situation qui nous est pénible, enfin en tout cas moi je parle pour moi, mais le premier réflexe, c'est que je n'ai pas envie de vivre ça. Je n'ai pas envie que la chose se passe comme ça. J'ai envie de me barrer, puisque c'est ça, je me barre. C'est de l'ordre de très, très instinctif. Ça va pas se passer comme ça. Il n'est pas question que je laisse passer ça. Parfois, on peut estimer qu'il y a des choses à pas laisser passer. Mais en tant que pratiquant, ce qui est important, c'est de voir ça. Il n'est pas question que je laisse passer ça. Et l'entraînement nous dit, laisse passer. Lâche, laisse tomber. Donc, ça nous invite à un discernement. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je laisse pas passer ça? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que... Et puis, on peut voir tous les scénarios qui se mettent en place dans l'esprit. Et de mesurer l'importance qu'on donne à ces choses et tout ce que ça va nous inviter. S'il y a l'option qui... une autre option qui se présente, laisser tomber, bah de voir que ça peut aussi... pas mal résoudre de problèmes. Mais c'est vraiment pas facile. C'est pas facile parce que c'est une tendance qui est hyper ancrée. Et ça, c'est normal. C'est une tendance qui est, je pense, pour la plupart d'entre nous, c'est ça. Et si on comprend ça, c'est ça la méditation. La méditation, ça n'implique pour faire cet exercice-là, qu'on soit assis ou debout, ça change rien. Travailler sur notre esprit, que ce soit assis sur un coussin ou dans la vie de tous les jours, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la méditation. Je dirais même que la vraie méditation, c'est quand on n'est plus sur le coussin, parce qu'effectivement, on fait cet exercice assis sur le coussin, à regarder les pensées, et puis je m'autorise à aller, je laisse circuler, je ne me bloque pas. Et j'interviens pas non plus. Mais la pratique n'a rien à voir avec le fait d'être assis. La pratique, c'est ce qu'on fait, c'est ce travail qu'on fait sur l'esprit. Il y a une histoire que j'aime bien, c'est l'histoire de la princesse au petit pois. Pour revenir sur le fait d'essayer de s'autoriser, de se permettre de ne pas être blessé, de ne pas se sentir blessé. Alors que si on ne travaille pas là-dessus, on devient très sensible, on devient trop sensible. Pas sensible dans le sens où je ne suis pas en train de dire... c'est pas bien d'être sensible dans le sens la sensibilité, mais dans le sens où trop affecté par tout ce qui se passe, trop vulnérable à tout ce qui se passe. Et donc la princesse au petit pois, vous connaissez peut-être, c'est un conte occidental. Un prince veut se marier avec une princesse, mais attention, il veut une vraie princesse, une princesse authentique. Et princesse authentique, qui dit princesse authentique dit princesse délicate. Donc, un jour, une prétendante se présente au royaume, et la reine l'accueille. Bienvenue. Alors, vous n'allez pas pouvoir rencontrer le prince tout de suite, vous le rencontrerez demain matin. D'abord, vous allez passer une nuit au palais. Et donc on prépare sa chambre, et dans sa chambre, sur son lit, on empile 20 matelas, et puis 40 édredons, et puis, enfin voilà. Et en dessous de la pile matelas, on glisse un petit poids. Et la princesse passe la nuit, et le lendemain matin, alors, avez-vous bien dormi? Oh non, c'était épouvantable, j'ai eu mal partout, il y avait un truc qui me dérangeait, etc. J'ai des bleus partout, regardez. Ah, là, c'est une vraie princesse, etc. Donc là, on la présente au prince, et puis il l'épouse, et puis ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà, c'est ça là, c'est ça l'histoire. Un peu résumé. Mais elle est quand même étrange, cette histoire, parce que moi, je me suis toujours dit, bien sûr, on met en valeur la délicatesse de la princesse, mais là, je me suis dit, du point de vue du bouddhiste, mais qui voudrait être à sa place? Parce que si elle fait tout un pataquès pour un petit poids avec 20 matelas dessus, mais qu'est-ce que ça doit être sa vie? Imaginez, il faut le moindre courant d'air, le moindre, mais ça doit être un enfer, quoi. Qui voudrait être à la place de cette princesse, quoi? Je sais pas quelle est l'intention de l'auteur. Parce que si ça se trouve, il y avait peut-être une sorte de satire, une sorte de double message pour peut-être critiquer le côté douillet de la bourgeoisie, ou je sais pas. Peu importe, mais... Comment?
Une
chieuse. Ouais, c'est un peu ça, quoi, disons. Les princesses, oui, d'accord, mais elles sont peut-être un peu... Voilà, donc moralité... Ne devenez pas ce genre de princesse. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Je crois qu'on peut être princesse d'autre manière. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas fini. Je parlais du fait que, bah oui, notre pire ennemi, on s'attend à ce qui nous blesse. Et donc, du coup... l'esprit préparé à la capacité de ne pas se laisser blesser. Et souvent, on se laisse blesser parce que, justement, on est pris par surprise. Par surprise par rapport à nos attentes. Par exemple, nos proches, nos amis, ceux, justement, qui ne sont pas supposés nous blesser. Du coup, parfois, on met les gens dans des cases. Cette personne, qui est mon amie, étant mon ami, n'est pas supposé agir comme ça, elle n'est pas supposée nous dire cela. Du point de vue du chemin, tant qu'on n'est pas éveillé, tant qu'on est en chemin, on a des facteurs perturbateurs, et donc on est faillible. Et donc il faut s'attendre que même nos amis sont faillibles. Qui dit faillible dit ils vont faire des choses discutables, des choses qu'on peut leur reprocher, des choses qui vont peut-être... Faut bien comprendre ça, parce que parfois, justement, on se fait avoir, on met des lignes rouges partout. Voilà, cette personne n'est pas supposée quand même faire ça, puis elle le fait quand même. Et là, du coup, on crie au scandale. Non, mais c'est... Elle n'est pas supposée faire ça, elle ne devrait pas, ça se fait pas, c'est inadmissible. Mais on a beau dire ça, elle l'a quand même fait. Et si on est trop à cheval sur ces lignes rouge, à un moment donné, dès que la personne franchit la ligne, c'est trop. Et du coup, on se sent blessé. Mais c'est finalement, ça dépend de nous. C'est nous qui permettons ça. Bon, faut quand même que j'attaque le renseignement sur le mental, ça fait déjà... Mais bon, c'est un préalable. Avant d'aborder la méditation, déjà, si on arrive à comprendre que la façon dont on se sent, au bout du compte, ça dépend de nous, on fait un énorme pas en avant. Point de vue de la pratique, c'est un énorme pas. C'est un véritable cadeau qu'on se fait. Parce qu'on comprend que finalement, on est maître de notre bonheur et de notre malheur. Comprendre ça, ça va nous... Il y a quelque chose de merveilleux. Parce que du coup, c'est envisageable d'être heureux, parce que ça dépend pas des circonstances qui nous échappent complètement, sur lesquelles on a un contrôle, on sent que ça nous échappe, quoi. Si on comprend que ça vient de notre esprit, alors là, du coup, il y a Il y a quelque chose à faire. On peut entraîner notre esprit. Petit à petit, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais si on comprend ça, bah, on comprend qu'il s'agit de travailler avec notre esprit. Entraîner notre esprit. À être plus souple. À être capable, quand on dit souple, c'est-à-dire changer de focus. Oui, il y a des choses qui vont pas. Il y a des choses qui vont pas. Mais il y a aussi des choses qui vont. Et puis il y a aussi ce qui est en train de se passer dans l'instant présent. Dans l'instant présent, on peut trouver du repos. Même s'il y a des choses qui sont passées dans le passé, même s'il y a des choses qui nous angoissent dans le futur, dans le moment présent, c'est pas là. Le futur n'est pas là. Le futur, c'est une idée. Hein. Le futur n'a pas d'existence en soi. Quand on y sera, dans le futur, ce sera le présent. C'est toujours le présent. Et le présent, c'est le seul moment qui nous appartient. Le passé, quoi qu'il soit passé, c'est passé, on ne peut pas revenir dessus, on ne peut pas le changer. Il n'est plus là. Le seul moment qui nous appartient, c'est le présent. Et là-dessus, on peut travailler. C'est même le seul moment sur lequel on peut travailler, le présent. Alors cet enseignement, donc sur les 9 étapes de Shiné, ça parle d'une progression, de gagner en stabilité, de rendre l'esprit de plus en plus stable. Rendre l'esprit de plus en plus stable va dépendre de nous, va dépendre du fait qu'on est capable de voir, de développer moins de sentiments négatifs par rapport à la souffrance, par rapport au problème. Ça, c'est très important à comprendre. Il ne s'agit pas de résoudre tous les problèmes pour être stable, il s'agit de développer moins de sentiments négatifs vis-à-vis de la souffrance, vis-à-vis des problèmes. Être moins effrayé par la souffrance. Parce qu'on comprend que, effrayé ou pas, de toute façon, ça n'empêche pas les choses d'arriver. Par contre, quand les choses pénibles arrivent, apprendre à être stable, c'est-à-dire à ne pas focaliser dessus, de garder un esprit capable de se porter, pas seulement sur les choses positives, mais sur l'instant présent. Et au départ, moi, cet enseignement, je l'aimais pas trop parce que je pensais que c'était quelque chose de très... J'avais du mal à le comprendre parce que j'envisageais que c'était une sorte de route très linéaire. C'est-à-dire, on va d'étape en étape, et puis quand on est à la troisième étape, eh ben, on est à la troisième étape. C'est comme si c'était acquis, on peut pas retomber. Et puis voilà. Et donc, du coup, bah, ça me paraissait complètement inaccessible. En fait, non, il s'agit de degrés de stabilité. On va faire une méditation. Un jour, l'esprit va être d'une certaine stabilité, et selon les critères de cet enseignement, ça correspondra peut-être à la cinquième ou la sixième étape. Ça n'empêche pas que le lendemain, on se retrouve à la deuxième étape, ou à la septième. C'est simplement des critères qui vont nous permettre de mettre des mots dessus. Voilà, ça, c'est cette stabilité-là. Qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin, en fonction des critères qui me sont donnés? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour développer plus de stabilité? Donc, c'est pas du tout linéaire. Et le support que je vais vous proposer, donc pour... est-ce qu'on en avait déjà parlé, en fait, la dernière fois? Non, on n'a pas du tout abordé ça, hein. Je vais vous proposer un support pour aborder les 9 étapes de Shiné, une forme de méditation, sachant qu'il y en a plein. Donc si elle ne vous convient pas, on en verra d'autres, mais je vous en propose une que je trouve très efficace. Il s'agit donc, pareil, d'avoir une bonne posture de méditation, c'est-à-dire assis, le dos droit, le corps le plus détendu possible. Et le support, ça va être la respiration. On observe la respiration, le va-et-vient du souffle, qu'on va observer soit au niveau du bas-ventre, soit au niveau des narines. Il y en a qui préfèrent les narines parce que, et c'est mon cas, il y a certaines personnes, quand on porte notre attention sur l'abdomen, il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de vouloir contrôler le rythme respiratoire, ou alors ça prend trop de place. Il y a des sentiments d'asphyxie comme ça. Il y a moins ça quand on porte notre attention sur le va-et-vient du souffle dans les narines. Donc voyez ce que vous préférez. Et ensuite, on va corser l'affaire. On va rajouter une contrainte. C'est on va compter les respirations. Et on va les compter dans l'ordre décroissant. Pour que ça oblige une certaine concentration. On part de 108. On pense inspire 108, expire 108. Inspire 107, expire 107. 106, 106. 105, 105. Et quand on se trompe, on revient à 108. Alors, ça fait sourire, mais c'est vraiment une méthode qui est enseignée dans la tradition du Mahamudra. Et une méthode qui est extrêmement puissante. Parce que elle a beaucoup d'avantages. Alors vous voyez que c'est quand même contraignant. Mais c'est une méthode qui va être progressive. C'est-à-dire, au début, c'est contraignant. La respiration, plus on compte, etc. Ça demande beaucoup d'investissement. Plus on va avancer dans les étapes de Chiné, plus on va dépouiller. On va enlever le décompte, on va enlever la respiration, et puis on va arriver à une stabilité avec le moins d'efforts possible. Et c'est symbolisé sur votre dessin. Vous voyez au début, il y a un brasier sur le chemin. Un brasier qu'on va retrouver, et plus on avance sur le chemin, plus il rétrécit. Et à la fin, il disparaît. Vous le voyez, les flammes ? Ça symbolise les efforts qu'il faut mettre dans la méditation, au départ. Au début, voilà, on met beaucoup d'efforts, beaucoup de contraintes. Plus ça va aller dans la stabilité, plus on va aller vers le non-effort, le naturel. Plus on va enlever tout ce qui est contraignant pour réaliser que la stabilité, en fait, est quelque chose de très naturel. C'est étonnant parce que c'est un peu paradoxal. On fait des efforts pour retrouver le naturel qu'on a perdu. Pour se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Vous voyez ? Mais c'est extrêmement bien foutu comme méthode. C'est très habile. La respiration, c'est ce qui va nous permettre de nous connecter à l'instant présent. Elle nous accompagne, donc c'est pratique. Ça nous fait un point d'ancrage avec le moment présent. Et le décompte va agir comme un rappel. Et ça, c'est très intéressant. Si on est distrait, avec le décompte, on le sait tout de suite. On perd le fil. Ça évite de partir pendant un quart d'heure. Parce que souvent, c'est ça. Hein. Quand on est débutant, il y a une pensée qui surgit. Et puis, en fait, on est absorbé dans cette pensée. Et on s'en rend compte au bout de 10 minutes. Ah mince, j'ai été distrait. Et je reviens sur mon support, la respiration. Je dis, bon, ok, respiration. Et puis la minute d'après, ça y est, on est reparti. Même parfois, c'est exactement la même pensée. Pensée récurrente. Et puis, on la déroule jusqu'au bout. Alors qu'on connaît l'issue. Mais on ne se rend pas compte. On ne le sait pas. C'est ça l'idée. On est en train de penser, mais on ne sait pas qu'on est en train de penser. On est distrait, mais on ne le sait pas. Et donc, on le sait qu'à la fin, le déroulement complet. Quoi. Très efficace contre les pensées récurrentes, cette méthode-là. Parce que dans cette méthode-là, vous le savez tout de suite que vous êtes en train de partir. 105, 104, 103, je perds le fil, pose pas de questions, je reviens à 108. Je sais que je suis en train de partir. Super la nuit aussi. Si vous souhaitez vous rendormir, à 3h du matin, vous savez, on se réveille, puis il y a une espèce de pensée, et puis on rejoue le match. Ah, encore ce truc, etc. On connaît le déroulement, mais on peut pas s'empêcher de rejouer le match. Ça met un stop. Et du coup, si on met un stop et que bah du coup la fatigue, le sommeil revient, bah c'est assez facile de se rendormir. Bon, ça sert pas à ça, mais je vous le donne comme tuyau, c'est assez efficace. Excellent aussi dans les situations où justement on sent que l'émotion prend le dessus. Parfois, en train de se faire tout un truc. Compter, en fait, porter notre attention sur le souffle en décompte, ça permet pendant un instant, on est sur le de décrocher de la préoccupation et de retrouver un peu de stabilité, un peu de calme. Je raconte ça parce que j'avais horreur de parler en public. Avant, c'était vraiment... ça me paniquait, en fait, d'avoir à parler. Mais même trois personnes, ça me... Le fait de dire trois mots, par exemple, je sais pas, une formation doit se présenter les uns après les autres. On doit juste dire trois mots, quoi. Nom, prénom, ce que tu fais dans la vie, quoi. Ça... Bon, il y en a qui développent. Moi, ce que j'essaie d'aller au... machin, tac. Voilà, trois mots, mais j'avais tellement d'angoisse par rapport à ça que du coup, j'écoutais même pas ce que les gens disaient. J'étais en train de répéter la phrase que j'avais dit. Je vais dire ça, et puis là, le tour qui arrive, et là, on sent que ça perd complètement les pédales. Je devenais dingue. Et du coup, de faire cette méditation, bah, ça me permettait de pas monter le truc en mayonnaise, quoi. Du coup, j'attendais juste mon tour en comptant.
Et là, tu
fais 108, 107. 108, 107. Alors, en général, ça va assez vite parce que comme la respiration s'accélère, ça fait 108, 107, 106, 105, 107. Et puis à un moment donné, ça sort, quoi. Et puis ça sort peut-être en bafouillant, mais au moins, on n'a pas vécu l'enfer en attendant. Voilà, je trouve que c'est efficace. Et c'est pour ça qu'on compte dans l'ordre décroissant, parce que si on comptait dans l'ordre croissant, bah on pourrait penser à autre chose, sans perdre le fil. Là, on s'en rend bien compte. Si au bout d'un moment, vous le faites machinalement, vous le faites, mais en anglais. Voilà, pour corser l'affaire. Si vous sentez que vous avez trop utilisé cette méthode, bah vous le faites en anglais. Voilà. Ou en allemand, comme vous voulez. Donc on va utiliser, je vais parler de cette méthode à travers toutes les étapes. On va partir de là, et puis si ça vous convient pas comme support, vous pouvez très bien en utiliser un autre, mais ça fonctionne pareil. Première étape, elle s'appelle le placement. Dans la première étape, donc on voit le personnage, les trois personnages qu'on va retrouver, le méditant, avec son lasso et son crochet. Le crochet, ça va être le support, la tension, la respiration. Maintenir, je suis conscient. Je suis conscient de ce qui se passe dans mon esprit, je suis conscient de ma respiration. Et le lasso, ça va être le rappel. Il faut maintenir ce rappel. Et c'est le décompte qui va faire office de notre lasso. Je sais que je suis toujours conscient de la respiration. Le méditant, on va dire que c'est la conscience. Ensuite, l'éléphant va symboliser notre esprit. Et là, il est symbolisé par un éléphant noir, sauvage. Pourquoi un éléphant ? Parce que l'éléphant, ça incarne la puissance. L'esprit est très puissant. Très puissant pour nous rendre heureux, très puissant pour nous rendre malheureux. Et là, il est sauvage. Et il est noir. Noir, ça symbolise l'opacité mentale. Et en plus, il est guidé par un singe ivre. Voilà. C'est costaud. Donc, il est puissant, il nous mène par le bout du nez, et en plus, il est guidé par un singe ivre qui symbolise l'agitation mentale, la distraction. La première étape des 9 étapes de Chiné, on l'appelle le placement. L'expérience qu'on fait, que le débutant fait au début, c'est justement cet esprit incontrôlable. Parfois les gens disent qu'ils commencent à méditer, ils parlent d'un flot, d'un torrent de pensées, une cascade de pensées. Ben, du point de vue de la pratique, c'est une bonne expérience. On prend conscience que l'esprit est part dans tous les sens. Première expérience de méditation. Je sais que l'esprit est agité. Je sais que l'esprit part dans tous les sens, qu'il est incontrôlable. On l'appelle le placement. Ensuite, la deuxième étape de Chiné. On voit pas très bien sur la photocopie, mais en fait, le crâne, la calotte crânienne du singe et de l'éléphant commence à blanchir. Bien blanche. En fait, blanchi, ça devient transparent. Dans cette étape-là, le signe qu'on est à la deuxième étape de Chiné, qui s'appelle le placement continu, c'est qu'on arrive à rester plus longtemps sur son support. Malgré l'agitation, on voit qu'on arrive à rester plus longtemps sans perdre le fil du décompte. Voilà, ça c'est le signe qu'on est à la deuxième étape de Chiné. Troisième étape de Chiné, et on va s'arrêter là. Le signe qu'on a à la troisième étape, c'est que quand on est distrait, quand on se rend compte qu'on a perdu le fil du décompte, on retourne à 108 sans jugement. D'ailleurs, on acquiert la capacité à ne pas se poser de questions. Je vois que j'ai perdu le fil, je reviens à 108 sans me poser de questions assez rapidement. Voilà, sans tarder. Sans jugement du genre « Ah, j'ai été distrait, c'est pas bien d'être distrait, etc. » Pose pas de questions, 108. Voilà, on va s'arrêter là. Alors, s'il y a un troisième élément qui apparaît à la troisième étape de Chiné, c'est le petit lapin qui est sur le dos de l'éléphant. Le petit lapin, en fait, symbolise la torpeur subtile. On le voyait pas dans les deux aspects, dans les deux étapes précédentes, parce que précisément, on n'en avait pas conscience. C'est trop grossier à ce moment-là. Plus on va avancer, plus on va prendre conscience d'une torpeur subtile. C'est-à-dire, parfois, ça a l'air d'être calme, d'être bien, on se sent bien, mais c'est un peu cotonneux comme ça. D'ailleurs, l'esprit n'est pas clair, on est un peu vaseux. Et le pratiquant doit reconnaître ça. Ce qui va nous permettre de reconnaître ça, c'est faire l'expérience, parfois, d'un esprit très clair. Et donc, en référence à cet esprit voilà, qui est vif, à la fois, c'est calme, il peut ne pas y avoir de pensée, parfois, dans ce calme, mais en même temps, c'est pas cotonneux, on voit tout ce qui se passe. C'est très vif, c'est très clair. Voilà, ça va nous permettre de reconnaître quand est-ce que, effectivement, ça peut être très calme, ou alors il peut ne pas y avoir de pensée, mais on sent que c'est vaseux. Quelque chose de vaseux. C'est la torpeur subtile. D'ailleurs, un des signes qui peut traduire ça, c'est que si une porte claque, même quand l'esprit est calme et qu'il y a cette torpeur subtile, bah, l'esprit il fait. Le corps il réagit, même très subtilement, mais on est quand même. Pris par surprise. Quand il y a l'esprit est très clair, une porte peut claquer. Bien sûr, au niveau des expériences qu'on fait sur les méditants, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau. Il y a un signal qui est envoyé, mais par contre, le corps reste très détendu. Il n'est pas du tout surpris. Et donc, il n'y a pas ça. Alors moi, je me fais avoir ce que j'ai appris au temple à dormir. En gardant ma posture. C'est assez pratique. D'ailleurs, de dos, voilà, on a l'impression que, voilà, parfait pratiquant, en posture et tout, nickel. Mais ce qui me trahit parfois, c'est un petit... quelqu'un qui tousse. Et là, du coup, je surprends, donc voilà. Je me fais avoir... Ah bah, il pionce, en fait. Ouais. Alors, je vous propose, pour terminer, qu'on fasse cet exercice pendant quelques minutes pour se l'approprier. Comme ça, si la méthode n'est pas claire, ben on peut en discuter. Donc, voilà, en posture de méditation, comme on a l'habitude de faire. Voilà, avec le dos droit, le corps bien détendu. Le plus relax possible. On se porte sur l'instant présent. On inclut la respiration, soit au niveau du bas-ventre, soit au niveau des narines. Et on commence le décompte en partant de 108. On compte inspire 108, expire 108, inspire 107, expire 107, 106, 106, 105, 105. Et si on se trompe, on revient à 108. Si la respiration est rapide, on la laisse telle qu'elle. Si elle est lente, on la laisse telle qu'elle. Ça n'a pas d'importance. Ça va la méthode? Alors, il y a aussi un autre avantage qui est excellent avec cette méthode-là, c'est que vous allez pouvoir vous rendre compte que parfois vous pensez et vous ne perdez pas le fil du décompte. Et ça, c'est intéressant comme expérience. Comment? C'est encore mieux.
Je trouve que ça fait vite revenir du coup.
Oui.
Tu pars beaucoup moins loin dans la pensée, en fait.
Ouais.
Le fait que tu continues de compter et que tu te rends compte que malgré tout, tu es en train de penser, tu pars pas loin.
Ouais. Ouais. Et oui, c'est-à-dire, c'est une pensée qui survole et elle nous embrouille pas.
C'est
encore mieux si on a cette stabilité-là qui permet de penser tout en gardant le support. C'est c'est encore plus puissant. Parce qu'on voit qu'en fait, c'est pas un obstacle à la méditation d'avoir des pensées. On peut très bien avoir des pensées et ne pas perdre le fil. Si c'est le cas, vous pouvez avoir autant de pensées que vous voulez, aucun problème. Ça montre que l'esprit, justement, est stable. Il ne se laisse pas embarquer. Il est présent, il est conscient. Et là, on en fait l'expérience vraiment. Je trouve qu'elle traduit bien. Cette méditation nous permet vraiment de voir que la pensée en elle n'est pas un obstacle à la méditation. La preuve. Voilà.
Et du coup, quand tu fais ça, quand tu arrives au bout, tu continues ta méditation maintenant ?
Alors, si l'idée, c'est pas de compter jusqu'à zéro. Si vous arrivez à 70, 80, sans vous tromper, c'est qu'en fait, la stabilité est installée. Du coup, il n'y a plus besoin de se dire « je vais arriver jusqu'à zéro ». Si vous voyez qu'à 70, même s'il y a des pensées, vous ne perdez pas le fil, c'est qu'il y a une certaine stabilité, vous laissez tomber le compte. Vous laissez tomber le compte et vous portez juste sur la respiration. Vous allez voir dans le process, au bout d'un moment, plus on va avancer dans la stabilité, plus on va bien voir qu'il y a plein de choses qui sont superflues. À un moment donné, le décompte devient superflu. Même de se porter particulièrement, garder une attention sur la respiration, va devenir superflu à un moment donné. On peut simplement rester dans la présence. Si on voit que c'est nécessaire, hop, on reprend le compte, le décompte. Mais voilà, vous pouvez vous aller jusqu'à zéro, mais ça n'a pas tellement d'intérêt. Vous arrivez jusqu'à 70, 60, sans vous tromper, c'est qu'il n'y a plus besoin, quoi. C'est bon, on s'arrête là pour ce soir.
Ouais.
On va faire la dédicace. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres.
Merci.